Il a un profil plutôt atypique, beau gosse, belle chemise. On s'attendrait plutôt à le voir lorgner les filles. Pas du tout. Il surveille amoureusement ses carottes et parcourt le monde, la terre, à la rencontre des autres agriculteurs. En Alsace, il a fondé et préside Bio Bernay, le salon de l'agriculture bio en Alsace qui s'est tenu le deuxième week-end de septembre. Rencontre très naturelle avec Maurice Meyer.
Moi, je suis agriculteur, donc je produis des légumes, des céréales et des pommes de terre. En agriculture biologique depuis 1996.
Où est-ce qu'elle est votre exploitation ?
L'exploitation est en Alsace, donc à 30 km au sud de Strasbourg, donc à 5-6 km d'Aubernay.
Et vous en vivez du bio ?
Ben oui, j'en vis du bio, oui, depuis longtemps. Donc, j'avais commencé à reconvertir une partie de ma ferme de mon père avant de m'installer. Donc quand je suis arrivé sur l'exploitation, la moitié était déjà en bio et tout de suite j'ai pu produire des légumes et des céréales bio. Donc chaque année, j'ai dû négocier durement pour récupérer une ou deux parcelles de plus pour faire la reconversion de façon progressive. D'accord. Moi, je suis arrivé il y a 15 ans, il n'y avait quasiment pas de filière et pas de débouché. Donc, sauf à les vendre sur le marché en direct, où il y avait déjà tous les collègues qui y étaient, il n'y avait pas de débouché. Donc, je me suis dit que c'est quand même dommage avec tous ces jeunes qui viennent et qui sont motivés et qui se retrouvent finalement à faire du bio et ne pas avoir de débouché. Donc, l'idée, c'était de travailler sur la filière et de communiquer, sachant qu'en voyant ce qui se passait en Suisse, en Allemagne, dans d'autres pays, on savait que le bio, ce n'était pas qu'une mode et que ça allait se développer obligatoirement. On savait aussi qu'en France, ça allait être plus difficile parce qu'on est dans un grand pays agricole, agroalimentaire et qui a les intérêts économiques d'abord, quoi. Donc l'idée d'être dans cette situation, en fait, moi je me suis retrouvé, avant je gagnais très bien ma vie, je sais pas, genre 12-13 000 francs par mois. Et quand je me suis retrouvé comme agriculteur, il me restait ça par an. Je me dis bon, économiquement, ça va quand même pas très bien. Donc je suis rentré à deuxième ou troisième année au syndicat bio. Je me suis dit, on peut pas laisser des situations comme ça, il faut faire de la promotion et accompagner l'agriculture biologique pour qu'elle se développe, là. Et donc je suis devenu secrétaire du syndicat bio pendant 5-6 ans. Et dans ce cadre-là, j'ai proposé à mes collègues de faire un salon qui permet de rassembler tout le monde, parce que chacun travaille de façon très éparse. Donc on rassemble les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les institutionnels, les associations de protection de l'environnement, du consommateur. Donc tous les gens qui sont motivés par le développement de la bio, on les rassemble et on se met face au public. Et donc ça, c'était l'idée du salon. Et donc à ce moment-là, je cherchais une agence pour travailler ce projet et c'est là que j'ai rencontré Bernard Mofra et qu'on a développé le concept global du salon à exactement à ce, comme il est actuellement. C'est comme ça qu'on a imaginé sur le papier. Et on a travaillé là-dessus pendant 2 ans et on a démarré en 2004 et donc là on est à la 8e édition. Première année, il n'y avait pas de thème, c'était le salon de l'agriculture biologique alsacienne, c'était le début. La deuxième année, c'était le terroir vivant de mémoire. La troisième année, je sais plus trop. La quatrième année, c'était l'eau, l'Alsace, la vie. Une année, c'était les énergies durables. Une autre année, c'était la biodiversité. Une autre année, c'était la viticulture bio. Et là, on est sur le thème du bien-être animal. Et l'année prochaine, ce sera plus large et plus simple. C'est agir pour l'environnement. Donc voilà la petite histoire du salon. Donc effectivement, on a commencé avec 68 exposants. Donc j'ai dû appeler 10 fois chaque personne pour réussir à rassembler 68 personnes parce que je les connaissais vraiment. Moi, j'ai travaillé dans le contrôle bio pour EcoCert pendant 5 ans. Donc ça veut dire que tous les producteurs alsaciens, je les connaissais personnellement. Donc je les ai harcelés au téléphone pour arriver à en rassembler 68 la première année, quoi. Et la première année, effectivement, il a fait super beau. D'ailleurs, il a fait très chaud. Les gens, ils dormaient dans les chapiteaux tellement il faisait chaud pendant les conférences. Vraiment, hein, torride. Moi, je me souviens des chapiteaux alignés là. Il y en avait un qui s'appelait aujourd'hui, l'autre qui s'appelait hier et l'autre qui s'appelait demain. Et donc, les différentes techniques, les différentes choses. Et les gens, ils dormaient dans les chapiteaux tellement il faisait une chaleur, quoi. Je me suis dit, bon, ça commence bien. Et en termes de visiteurs, en fait, on a eu 4500 visiteurs sur les 2 jours. Ce qui, pour une première, n'était pas mauvais, mais bon, c'était par rapport à tous les moyens mis en œuvre, c'était pas terrible encore. Donc la deuxième année, il a fallu retourner à la charge avec tous les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, en leur disant, bon, il y a du potentiel quand même, il faut y aller. Et la deuxième année, on a doublé au niveau du nombre de visiteurs, donc on est tombé à 9000 visiteurs. Troisième année, assez rapidement, on a dépassé la barre des 13 000 visiteurs. Donc à partir de ce moment-là, c'était bon. On est passé de 68 exposants à 95, et de 95 à 120. Et donc actuellement, on est à 220. L'année dernière, on était à 210, donc il n'y a pas du tout de recherche de développement à tout craint. On essaie de maîtriser le développement et de rester dans une taille correcte. Et surtout, même au niveau visiteur, quand on a trop de visiteurs, en fait, c'est plus bon. Parce qu'on a une année où on avait 15 personnes devant chaque stand. Donc on ne pouvait plus discuter avec les gens, on ne pouvait plus rien faire. On ne pouvait plus marcher, il n'y avait plus rien à manger. Donc c'était à 10 000 visiteurs, là, c'était pas bon, quoi. C'était anti-qualitatif. Donc l'idée, là, résultat, c'est non pas en termes de sécurité, mais en termes de qualité. Dimanche, c'est vraiment la journée de sortie des visiteurs alsaciens et surtout des producteurs. Les producteurs, ils travaillent samedi compris. Des gens qui embauchent d'autres personnes, des gens qui se rencontrent, des gens qui s'associent. On a quand même quelques couples qui se sont formés à Billaud-Bernay. Parmi les bénévoles, parmi les exposants, on en a quelques-uns comme ça. Et effectivement, donc de ce côté-là, on a un espace professionnel qui est typiquement un endroit de rencontre. Voilà, et donc l'idée de développer des thèmes est vraiment une idée intéressante parce que ça renouvelle chaque année et puis ça pose les choses. Et ce soir, Madame Vonesch, qui est la responsable du bien-être animal, la France Nature Environnement, est venue me voir pour nous féliciter d'avoir abordé ça de façon assez tranquille, quoi. Parce que souvent, effectivement, ils ont abordé ça de façon très hard et puis on se rend compte que ça réagit, mais ça n'agit pas obligatoirement. Là, l'idée, c'était de toucher le public et de refaire réfléchir. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, en termes de ce qui est sorti dans les journaux, et à la radio et à la télé, partout, le bien-être animal a vraiment été très repris. Sandrine Bélier, typiquement, était directrice d'Alsace Nature, et je connais très bien Sandrine. On allait manger ensemble de temps en temps, on a nos bureaux à 100 mètres l'un de l'autre. Voilà, donc les présidents, les directeurs, tout ça, ça coexiste, ça existe. Moi, j'ai fait mon premier stage en agriculture biologique en 1987. Mes parents avaient exploitation agricole, donc ils pouvaient tout me faire faire, sauf les engrais, les pesticides, ça passait pas. Même à 13, 14 ans, donc à 17 ans, j'avais mes cheveux longs, ma barbichette, donc je me faisais traiter d'écologiste. Et tout ça. Et effectivement, j'ai jamais compris pourquoi il fallait détruire l'environnement, polluer la terre pour manger, sinon ça fait 10 000 ans qu'on le saurait. Donc j'ai fait des études agricoles d'abord très courtes, et puis c'était pas satisfaisant de la compréhension de l'agriculture, de l'agronomie, de la vie. Donc du coup, j'ai fait des études longues après pour creuser un peu. Et effectivement, j'ai beaucoup voyagé aussi, Tour de France à cheval, en m'arrêtant dans les fermes à la nuit. Donc pendant 3-4 mois, comme ça, j'ai pris mon cheval et j'ai fait un petit tour là. Et la nuit, je m'arrêtais ou chez des gens qui avaient des chevaux ou dans des fermes. Donc, tranquille pour découvrir un peu l'agriculture française. L'année d'après, j'ai fait le tour de l'Amérique du Nord en stop. Donc là, le Grand Ouest, les grandes fermes. Je connaissais quelques personnes, donc j'ai pu aller dans les universités agricoles, chez des producteurs, visiter un peu tout ça au passage. Donc, c'était assez impressionnant à l'époque. Et puis ça augurait un peu déjà de ce qui allait arriver. C'était vraiment pas très beau à voir, la monoculture, même si c'est extensif dans certaines régions américaines quand même. Donc vraiment une agriculture différente, puissante, exportatrice, etc. Donc pas terrible quelque part. Il y avait les prémices de l'agriculture biologique en Californie à l'époque un peu. Un peu 86. Après, je suis retourné à l'école. Donc, j'ai fait un BTS, donc technique agricole et gestion de l'entreprise à Toulouse à l'époque. Et après, j'ai fait une spécialisation en agriculture biologique. Donc, pendant un an, que agriculture biologique, biologie des sols, agronomie, réglementation, commercialisation, que ça pendant un an. Donc, c'était assez rare à l'époque. C'était assez novateur, là. Donc, ça nous ramène. Après mes études, je suis parti d'ici en stop. Je suis descendu jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Donc, Espagne, Gibraltar, le bateau quand même, j'ai pas fait la nage. Le Maroc, l'Algérie, le Sahara en stop avec dormir dans le sable, la belle étoile avec la lune, c'était magnifique. Le Sahel, donc au niveau agricole, très spécial, très pauvre et puis vraiment dépendant des pluies. Tout ce qui est Afrique tropicale, donc la forêt, tout ça. Puis après, à nouveau, on arrive en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est les OGM maintenant, c'est l'agriculture intensive, c'est le système américain, quoi. Donc c'était assez impressionnant de voir tous ces différents types d'agriculture, en fait. Quand on est au Maroc, il y a 25 ans, on retombe au Moyen-Âge quasiment, avec les gens qui travaillent à la main, les ânes et les chevaux qui sont utilisés pour sortir les grains de leurs enveloppes et tout ça. Donc c'est vraiment intéressant. Et après, le Sahel, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment hard. C'est-à-dire quand ils arrivaient même pas, ils n'avaient pas de quoi faire la soudure quelque part en céréales. Donc ça, moi, je me souviens, en Nigeria, des camions qui passaient le matin dans les villes et qui embarquaient des cadavres humains. Donc c'est quelque chose de terrible, quoi. Ouais, donc c'est assez spécial quand même. Pour se poser des questions et tout ça, c'est quand même pas mal, quoi, d'avoir vécu ça. Et après, je suis allé en Amérique du Sud un peu pour voir quand même le côté Brésil, Argentine et tout ça, quoi. Et après, il a fallu que je travaille à un moment, j'avais plus de sous. Et donc, je cherchais du travail et c'est là que Raymond Dur me dit, il y a une société de contrôle et certification qui vient d'être créée, c'était EcoCert, et qui cherche quelqu'un en Alsace. Donc, j'ai postulé, j'ai rencontré le directeur, on a déjeuné ensemble et le jour même, j'étais embauché, quoi. Donc effectivement, j'avais tout le profil, études supérieures, spécialisation en agriculture biologique, motivé, connaissant la biodynamie et toutes ces choses-là déjà quand même. Donc pour eux, c'était assez bien. Donc j'ai commencé sur le terrain à faire... C'était le premier contrôle vraiment structuré, organisé, en vue de l'apparition de la réglementation européenne. Donc c'était assez surprenant pour les producteurs aussi. Donc j'ai fait l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté, donc c'était déjà pas mal. Et après, j'ai poussé jusqu'à Paris et Lyon, donc tout l'Est de la France. Donc tous les producteurs, les transformateurs, les distributeurs de l'époque. Et à l'époque, le bio n'était pas très cadré, parce qu'au début, on avait 5 000 producteurs à certifier. En fin de la saison, il ne restait plus que 3000 certifiables. Donc il y avait encore des gens à l'époque qui faisaient le Lemaire Boucher, les biotournantes et tout ça. Donc là, on a fait un biotournante, c'est-à-dire ils mettaient des engrais, des pesticides. Et l'année d'après, ils faisaient du blé, ils n'en mettaient pas et ils vendaient ça comme bio. Et l'année d'après, ils mettaient à nouveau une culture avec des engrais, des pesticides, etc. C'était pas très net, tout ça. Et donc tout ça, ça a disparu. Donc du coup, quand même, 2000 exploitations qui étaient censées être en bio sur 5000 qui ont disparu. Donc c'était vraiment un gros tri dès la première année. Parce que la réglementation européenne est arrivée, c'était strict. Et puis effectivement, il y avait des vrais contrôleurs indépendants. Avant, les organismes envoyaient leurs techniciens. Les techniciens, ils achetaient les céréales, ils vendaient les semences, les engrais. Et il donnait la bénédiction en même temps, quoi. C'était d'abord une réglementation française. En 1993, a été appliquée l'européenne. Mais en vue de l'application de cette réglementation stricte, les contrôles ont vraiment commencé en 1991. Donc Nature et Progrès, par exemple, c'est des contrôles une fois tous les deux ans. Déméter, c'était du contrôle interne. Un producteur allait voir son collègue et c'est lui qui décidait s'il était bon ou pas, etc. Il n'y avait pas de comité certification et tout ça. Il y avait des commissions qui se rencontraient, effectivement, et qui jugeaient d'un cas.
On a l'image de l'Alsace comme berceau, enfin l'un des berceaux de l'écologie. Et alors, est-ce qu'il y a des connexions avec le monde agricole et le monde de la bio?
Donc la première ferme connue en Alsace qui a fait de la biodynamie, c'était en 1938, je crois. 1938. Et donc ça, c'est typiquement la proximité de l'Allemagne et de la Suisse qui font ça. Bah oui, Steiner... En fait, Steiner, il venait tous les étés en vacances à Bar. Et donc, il avait un ami qui s'appelait Édouard Churet, qui était un écrivain, un philosophe, etc., qui écrivait des pièces de théâtre aussi. Donc, ils avaient une amie commune. Et donc, tous les étés, il venait en vacances à Bar. Il passait 2-3 semaines. Il se promenait à pied au Mont-Saint-Odile. Il allait au Val, boire un coup et tout ça. Et donc, effectivement, l'Alsace a été très facilement conquise par toutes ces choses. Et les premiers agriculteurs bio dans les années 60, donc Danny Schmidt nous a dit que son père s'est reconverti en 65. En fait, il devenait membre des fédérations allemandes. Et donc, tous les gens des années 60, 70, en fait, allaient en Allemagne pour suivre des formations, des visites d'exploitation, etc. Donc, directement rattaché. Et comme la langue n'était pas un obstacle ici... Et des gens comme Danny Schmidt, président de l'OPABA, il est toujours certifié par Bioland, même maintenant en 2011 encore, quoi. Donc son père a commencé avec Déméter à l'époque, et puis finalement il n'accrochait pas trop la biodynamie. Il est passé à Bioland, et donc depuis 40 ans, ils sont membres de Bioland. Donc ils payent Bioland, et puis en même temps, ils payent la certification française. Et en même temps, lui, il paye la certification suisse, et plus le NOP américain. Dû à ses clients, en fait. Donc c'est typiquement en fait, le fait d'être près de la frontière, culturellement, vraiment faciliter les choses. Voilà, et donc cette histoire avec Ecosert, donc je travaillais dans l'Est de la France, et en fait, dès la deuxième année, comme j'avais quand même pas mal voyagé, j'avais un petit bagage linguistique, donc français, allemand, anglais, courant, pas de soucis. Donc la deuxième année, on a commencé à m'envoyer en Sicile, et puis au Burkina Faso, et puis en Colombie, et puis en Afrique du Sud, et puis... en Tunisie, en Algérie, en Turquie, au Maroc, au Ghana, au Togo, au Bénin, au Cameroun, au Burundi, en Inde, etc. quoi. Donc en fait, une quarantaine de pays différents, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie, l'Allemagne, la Suisse, le Portugal, la Hollande. Comme je connaissais bien la biodynamie, j'étais agréé Déméter international. Donc quand les Allemands avaient un projet en Turquie ou au Ghana, en fait, j'avais la chance d'y aller. Et en même temps, je travaillais pour OCIA, qui est la CIA organique du bio aux États-Unis. Donc c'est vraiment OCIA, Organic Crop Improvement Association. Et donc je travaillais pour eux en Europe. Donc j'allais en Belgique, en Hollande, en Italie et tout ça pour les Américains, quoi. Donc pendant 5 ans, j'ai fait ça. J'ai à peu près suivi 600 exploitations dans 42 pays différents. Et des fois, pendant 2, 3, 4, voire 5 ans, quand c'était du local ici, quoi. Et donc, en plus de la production, il y avait tout ce qui était transformation. Import, export, donc les ports d'exportation, les containers, les machins, toutes ces problématiques. Donc, c'était rencontre avec le ministre de l'Agriculture au Cameroun, rencontre au ministère de l'Agriculture en Colombie pour arriver à débloquer des dossiers où, par exemple, en Algérie, des dattes exportées sont obligatoirement fumiguées avec des produits chimiques de synthèse. Et il faut avoir une dérogation du ministère pour que les produits ne soient pas fumigués afin que les parasites ne soient pas exportés. Des dattes subissaient une fumigation avec un insecticide de synthèse. C'est-à-dire qu'on les mettait dans des chambres, on lâche des pesticides, des insecticides, et c'était obligatoire pour l'exportation. Pour ne pas que les parasites qui soient à l'intérieur soient toujours vivants. Et par exemple, dans la figue, c'est un classique. Dans la figue, il y a toujours beaucoup de bestioles à l'intérieur. D'ailleurs, dans des pays comme la Turquie, c'est la même chose. La figue, c'est un vrai réservoir à insectes. Et donc, pour que les figues soient propres, obligatoire insecticide. Donc, c'était des négociations pour que les produits bio puissent sortir du pays sans subir ça. Et donc, il a fallu inventer d'autres méthodes qui étaient souvent, par exemple, du chauffage par le froid. On met les figues à moins 40 pendant 24 heures, ça tue les insectes. Et donc tout ça, c'était des négociations assez difficiles parce que ça dépendait de l'État souvent, quoi. Et donc mêlé à toutes ces histoires d'import, export, réglementation et toutes ces choses-là. Donc c'était assez intéressant, quoi. Et après, donc, mes parents avaient l'âge de la retraite. Donc c'était, tu reprends l'exploitation ou tout part en petits morceaux et ça sera irrécupérable. Et donc j'ai arrêté au bout de 5 ans. J'ai arrêté le 31 décembre 1995 et le 1er janvier 1996, je me suis installé comme producteur. Et c'était bien vu aussi parce que les parents, ils avaient fait leur truc. Et puis pour eux, le bio, c'était pas quelque chose de naturel. Et donc c'était impossible de collaborer sauf à récupérer des parcelles chaque année un peu. Et donc eux, ils ont arrêté leur carrière et puis moi, j'ai commencé la mienne. Donc c'était très bien comme ça aussi. Parce que le fossé culturel des générations, des idées comme le bio à l'époque, des mauvaises herbes dans les champs, pour eux, socialement, c'était la honte d'avoir un fils qui a des mauvaises herbes dans les champs. Quoi. Vraiment, hein ? Ah oui, donc ça fait une pression sociale comme ça qui n'est pas facile pour les jeunes. Quoi. Et ça, ça existe encore de nos jours. Un peu moins, mais ça existe encore.
Alors le fait de se retrouver dans son exploitation après avoir beaucoup voyagé,
c'est... Et de toute façon, quand vous voyagez dans le monde entier, vous regardez un peu la situation, les gens, à part faire quelque chose de local... On ne peut pas changer le monde comme ça, on ne peut pas changer les grands systèmes. La seule chose qu'on peut changer, par rapport à ce qu'on fait, on peut changer ce qu'on fait, soi-même et ce qu'on fait. Et donc la décision, c'était une exploitation agricole, locale, avec un marché local. Et donc plus que ça, c'est une dynamique locale, dans le cadre d'Alsace Bio, dans le cadre d'un salon qui fait la promotion de toute l'agriculture biologique régionale. Et c'est la seule chose à faire devant le géant de la mondialisation. Effectivement, consommer différemment et voir les choses différemment. Sinon, malgré tous les ministres et tous les gens que j'ai pu rencontrer, la marge de manœuvre était toujours très faible. Et souvent, ils ne voyaient les choses que du point de vue économique, c'est-à-dire exporter. Hein, les Européens veulent du produit biologique, ben, s'ils sont prêts à payer, ils sont solvables, on va leur en donner, quoi. Mais c'est tout, quoi.
Finalement, là, tu as l'impression d'avoir plus d'action.
Ah ben oui, là, on peut faire quelque chose, quoi. Là, on peut faire quelque chose. Et c'est vrai que la bio, c'est quand même un sacré truc. À l'époque, on parlait beaucoup de biocolonialisme. C'est-à-dire que les pays consommateurs et solvables, c'est l'Europe, c'est l'Amérique du Nord, c'est l'Europe occidentale, c'est l'Amérique du Nord et c'est le Japon. Partout dans le monde entier, le rêve des gens, c'était de produire du bio pour pouvoir vendre plus cher et pouvoir en vivre à ces pays solvables. Donc c'est quand même un drôle de système. Mais en même temps, c'était quand même intéressant que le consommateur européen ou américain soit prêt à payer plus pour avoir une agriculture différente, que ce soit ici ou autre part. Donc moi, je suis d'accord pour l'agriculture locale, pour le développement et tout ça, mais s'il y a des initiatives et des choses importantes ou intéressantes dans d'autres pays, il faut les soutenir de la même façon. Ça, c'est clair, quoi. Mais par contre, tout basé sur l'export ou sur l'import, c'est un mauvais système, ça, c'est clair, quoi. Donc moi, il y a des années où 95% de ma production, de ma ferme, est vendue dans un rayon de 80 km. Bon, on travaille avec un grossiste national qui représente maintenant, ça a augmenté un peu, genre 10 ou 20% de notre chiffre d'affaires, mais pour des produits très particuliers, genre du rutabaga ou des choses comme ça, qui se font très peu, des produits originaux. Donc c'est pro-natura. Voilà, donc l'histoire, c'est de faire quelque chose soi-même et après de faire du collectif quelque part. Et donc de prendre un peu tout le monde et disant... Et puis quand on a commencé à monter un salon de ce type, tout ce qui était communication, tout ce qui était marketing un peu trop packagé, trop propre, ça passait pas très bien dans le milieu bio, quoi. Heureusement, entre il y a 20 ans et maintenant, on est passé de 50 producteurs à 500 producteurs. Aujourd'hui, c'est des gens qui exportent au Japon, aux États-Unis, partout, quoi. Par contre, ils ont pris une bonne claque pendant la crise. Hein. Et donc, ils se sont repositionnés, ce qui n'est pas plus mal pour eux, quoi. C'était un peu la facilité pour eux d'exporter et de valoriser bien et très loin.
Voilà, voilà. Ce salon, ça te prend combien de temps,
Mais en fait, au début, je faisais tout moi-même. Donc, j'avais ma voiture et mon téléphone portable, c'était tout. Au fur et à mesure, comme un coucou, je me suis installé dans les bureaux de Bernard, dans son agence de com. J'ai commencé à lui prendre une petite pièce, et puis une pièce plus grande. Et puis finalement, on occupe la moitié de l'agence maintenant. Et donc actuellement, il y a une personne à temps complet qui est mariée là, qui s'occupe de ça. Et après, on a deux stagiaires sur 6 mois ou 1 an, en fonction des choses, qui s'occupent des exposants. Donc ça représente 2 personnes à temps complet sur toute l'année. Et moi, je passe 2 à 3 demi-journées par semaine. Donc mon activité principale, c'est toujours l'agriculture, c'est les champs, c'est les carottes et tout ça. Mais 2-3 demi-journées, c'est Bio Bernay, Alsace Bio, les contacts avec les distributeurs, les transformateurs et toutes ces choses-là, quoi. Et de temps en temps, quand j'ai un peu le temps, je prends des vacances. Je vais à l'autre bout du monde et je vais rencontrer mes collègues en Afrique du Sud, en Inde, en Chine et tout ça pour discuter avec eux du pourquoi, du comment ils font de l'agriculture biologique, qu'est-ce que ça leur amène, la biodynamie et toutes ces choses-là. Pour repositionner ce métier d'agriculteur différemment, pour pas être au bout de la chaîne en étant solvable et corvéable à merci, quoi. Au contraire, en disant c'est quelque chose d'important, On a besoin de manger tous les jours, donc on se rend compte que tout ce qui est facultatif, le téléphone portable, l'internet, etc., bon, c'est plus tellement facultatif dans notre société, mais tout ce qui est pas indispensable, la survie, ça marche à fond, il y a des grosses sociétés là-dessus, ils font des sous, et tout ce qui est indispensable, l'alimentation, on essaie de réduire au maximum, or l'impact de l'alimentation sur l'environnement est très important, donc il faut quand même faire quelque chose dans ce cadre-là. Et donc en fait, BioBelais, c'est une grosse opération de communication, il faut pas rêver, hein. Donc quand on proposait à des gens de communiquer sur l'agriculture biologique, personne ne voulait mettre de moyens. Quand on leur propose de faire un salon, finalement ils viennent tous, ils participent, ils payent leur stand. Les institutions payent, les entreprises payent, tout le monde paye. Et puis tout ça fait un budget qui dépassait 200 000 euros quand même pour faire la fête pendant 3 jours. Mais en termes de communication, à mon avis, on touche 500-600 000 personnes. Quand même. En plus, c'est quelque chose qui est lié à quelque chose de vivant, avec une rencontre. Les gens vont dans les fermes, il y a énormément de reportages pratiques sur le terrain, plein d'émissions en direct, il y a eu tout ça. Chose qu'on a du mal à obtenir autrement. Après, il y a des opérations de communication comme celle de l'agence bio aussi, dans les magasins et tout ça, mais c'est pas la même chose. Quand on peut faire ça sur les exploitations, dans les fermes, dans les endroits où les producteurs sont, c'est beaucoup plus vivant. Et le côté vivant et humain est important, en fait. Sinon, on pourrait faire du tout Internet ou du tout télévision, mais ça n'a rien à voir, quoi.
Le revenu des producteurs bio a augmenté considérablement.
Ouais, je sais pas si là où...
Quoi. La situation de départ.
Moi, je peux parler de ma situation. Donc, effectivement, des années difficiles, on sent que le marché s'est beaucoup développé, il y a des grossistes qui ont apparu. Et actuellement, on a plus de demandes que d'offres. Ça, c'est que là, moi, j'ai trop de clients. Bon, moi, je suis en agriculture biologique, je suis aussi en agriculture biodynamique et en marque régionale. Donc, qui que ce soit qui veuille quelque chose, même les gens les plus exigeants, se retrouvent toujours, quoi, quelque part. Et donc, on n'a jamais assez de produits. Hein. Actuellement, mon exploitation toute petite de 22 hectares permet de faire vivre 3-4 personnes toute l'année, quand même. Alors que théoriquement, sur le papier, une exploitation conventionnelle de cette taille ne devrait plus exister. Mes voisins, ils font tous 50 hectares. Et encore, avec 50 hectares, ils sont double actifs. Ils vont à l'usine et en même temps, ils font du maïs.
Vous n'avez pas de souci avec la crise des graines germées?
C'était une période... Moi, je ne fais pas de concombres, donc j'étais tranquille. Et nous, on a fonctionné un peu spécial. Notre saison vient juste de commencer. Donc nous, on ne fait pas du tout de produits primeurs. On ne fait pas de produits bâchés. On ne fait pas de serre. On ne fait pas de tunnel. On ne fait rien. On attend qu'il fasse bon, et à partir de ce moment-là, on met les choses en place, on les laisse pousser tranquillement, et l'automne, on récolte. Et donc, notre période de commercialisation, c'est de août à mars. Et pendant le reste du temps, on est disponible pour s'occuper vraiment des champs. Contrairement aux gens qui font de la vente directe et qui n'arrêtent pas de courir d'un marché à l'autre, et qui finalement, il faut qu'ils s'occupent des champs le dimanche. Quoi. Moi, le dimanche, je pars au week-end, je me promène à cheval, ou je fais d'autres choses. Hein. Et donc, c'est beaucoup plus cool, j'allais dire, que les gens qui sont en vente directe, qui ont 100 produits différents, et qui passe d'un marché à l'autre, qui déballe, qui remballe, qui se lève le samedi matin à 3h du matin pour aller au marché. Quand ils rentrent à 2h de l'après-midi, ils vont se coucher le samedi et ils font la sieste. Bon, moi aussi des fois, mais je ne me lève pas à 3h du matin. Quoi. Ouais, donc on a trouvé un bon équilibre comme ça. Par exemple, notre blé, tout le blé va chez un agriculteur voisin qui fait de la farine et qui a comme client un boulanger bio. Et donc c'est un circuit très très court en fait. Et tout par là-dedans. Donc même quand il y a la crise du prix des céréales, chez nous, le prix n'a pas bougé depuis 10 ans. Donc on a une ferme voisine à 6 km qui est en biodynamie aussi depuis 30 ans. Et donc eux, ils ont des vaches laitières, mais ils sont un peu en début de montagne. Donc ils n'ont jamais assez de fourrage et pas de qualité. Donc on leur produit la luzerne, ce qui nous permet d'avoir la luzerne dans la rotation. Tous les céréales secondaires, orge, avoine, tout ça, on leur produit ça pour leurs animaux. On leur donne toute notre paille et on récupère le fumier. Avec ce fumier, on va faire le compost biodynamique. Qu'on réutilise à nouveau pour notre production de légumes. Donc on est sur un circuit fermé à 6 km d'écart. Donc on a la chance de pouvoir faire ça. Quoi. Et donc on a quasiment notre compost est fait à base de fumier biodynamique bio. Ça c'est le top. Quoi. Parce que c'est assez rare, un producteur en bio, normalement il ne donne pas son fumier. Il le garde pour lui. Quoi. Mais comme on lui produit une partie... Donc, et puis bon, moi j'étais pas prêt à refaire des vaches laitières. Hein. Me lever tous les matins pour traire les vaches, rester le week-end et tout ça. C'est pas mon truc. Quoi. Je préfère les carottes. Là. C'est tranquille, vous partez en week-end, elles ne bougent pas du champ. Il manque qu'elles aient à boire et à manger. Hein. C'est différent. Je m'occupe du bien-être de la carotte, mais c'est plus léger. C'est plus léger. Quoi. Hein. Non, et puis moi j'ai toujours adoré manger les légumes, faire les légumes, donc je fais beaucoup de carottes. Et carottes, je crois que c'est la légume où je gagne le moins de sous, mais j'en fais chaque année et j'arrive pas à réduire la surface. Et je mange des carottes tous les jours. Quoi. Donc il permet de devenir aimable. Aimable, le teint correct, etc. Les fesses roses, toutes les histoires qu'on raconte, c'est la carotte. Quoi. tout ce qui est carottes, betteraves rouges et toutes ces choses-là. Ah bah, il faut tester, il faut goûter. Hein. Hein 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 et ouais. Donc c'est vrai que moi j'ai jamais fait les choses qui allaient pas. Donc même au niveau professionnel, j'ai jamais travaillé dans une usine parce qu'il fallait vraiment travailler. Quoi. J'ai jamais fait ça. Quoi. Je sais pas, c'était pas concevable. Ouais, donc l'idée c'était que ça se développe. Et c'est vrai que Bio Bernet, c'est pas Bio Bernet qui a fait développer l'agriculture biologique en Alsace. On sait que c'était prêt quelque part. Quoi. Mais ça participe à l'ouverture d'esprit, ça participe à tout ça. Et l'idée, fédérer les énergies. Et l'idée c'est d'être ouvert. Hein. Souvent le bio c'est un monde très fermé. Hein. Fallait vraiment être motivé pour y rentrer, ça c'est clair, hein, quand on vient de l'extérieur. Hein. Donc très très fermé, et l'idée c'était d'ouvrir. Et la difficulté c'était d'ouvrir sans perdre son âme. Et c'est là que les gens, ils ont tous peur au passage. Si on ouvre trop, si on ouvre sur des entreprises, sur les institutionnels, sur les politiques, ils vont toujours... Effectivement, ils récupèrent une partie des choses. Mais l'idée de faire venir les politiques, c'est qu'ils se positionnent aussi. Et donc, dès la deuxième année, on a eu la chance d'avoir le ministre de l'Agriculture qui est venu. Et à l'époque, il s'est positionné sur les soutiens à l'agriculture biologique, le problème des pesticides naturels et la mise en place des primes et des sous pour la reconversion, parce qu'il n'y avait pas de sous à l'époque dans les caisses. Quoi. Donc, Bussereau est venu et il s'est engagé à faire des choses concrètes pour l'agriculture biologique. Et c'est ça qui était intéressant. Et il y avait 300 élus qui étaient là, de toute l'Alsace. Tous les députés, les sénateurs, les conseillers, ils étaient tous alignés. On avait un grand chapiteau de 300 personnes ici. C'était le déluge, il y avait un orage terrible. Les gens, ils avaient les pieds dans l'eau, donc ils soulevaient les pieds comme ça, assis sur leur chaise. Là. C'était assez impressionnant. Et Bussereau disait, c'était la sécheresse à l'époque, disait, nous sommes contents qu'il pleuve. Paf, une trompe d'eau, on n'entendait presque plus rien. Et donc il y avait 300 personnes qui étaient là, et donc c'était assez impressionnant quand même, qu'il y ait un discours comme ça.
Au revoir Maurice,
oui.
Au revoir.
Bonne soirée.
C'était super, à bientôt.
Salut.
Bonne soirée.
Bonsoir. Donc c'était quand même intéressant que le ministre, déjà il vienne. Donc tous les syndicalistes régionaux étaient contre, donc ils étaient opposés à la visite du ministre. Ah, carrément. Et donc, il est quand même venu, quoi. Alors que généralement, quand dans une région, ils veulent pas qu'un ministre vienne, ils arrivent à le faire savoir et il y a des sacrées histoires, quoi. Et donc, le député qui était là, Antoine Hert, donc c'est lui qui s'est arrangé avec Bussereau en direct. Parce qu'à l'époque, il était en train de travailler sur la loi d'orientation agricole et donc il le voyait tous les 15 jours. Donc, moi, je lui ai donné le dossier et le lendemain matin, il avait déjeuné avec lui. Et donc, Bussereau a eu le dossier direct en 12 heures, de main à main. Et il s'est engagé à venir, quoi. Et tous les syndicalistes agricoles, tous les gens n'ont pas réussi à l'arrêter, donc c'était déjà pas mal, quoi. Ça, c'était la deuxième année, donc on a commencé fort, quand même. Et en même temps, on avait des manifestations anti-OGM sur le site, parce qu'en même temps, le ministre traitait le dossier des OGM, quoi. Et donc c'est là que la filière bio, effectivement, historique, disait ils sont en train de passer des lois sur les OGM, et en même temps, moi, je l'invite pour venir inaugurer. Donc c'est sûr que c'est délicat, quoi. Mais bon, ça nous a permis, c'est vrai, de faire vraiment un sacré pas tout de suite, quoi. Ça allait beaucoup plus vite que prévu, en fait. Normalement, on pensait mettre 10 ou 15 ans pour établir le salon de la façon dont il est aujourd'hui, au bout de 7 ou 8 éditions, quoi. Vraiment.
Il y a des nouveaux agriculteurs qui se convertissent à la bio dans la région.
Oui, donc Danny Schmidt disait que l'année dernière, il y a eu 65 nouveaux venus en agriculture biologique, ce qui est pas mal en proportion, quoi. Et donc, il y a un vrai mouvement de fond en viticulture. Et en fait, en viticulture, les gens, ils cherchent l'expression du terroir. Donc, pour ça, il faut que le sol, il soit vivant. À partir du moment où il est vivant, donc il a un sous-sol particulier, et il va donner un vin différent des autres vins. Donc, fini la bagarre avec l'Afrique du Sud, l'Australie, le Chili, la Californie, non. Chaque vin est différent. Et c'est ça qui intéresse, le viticulteur. Et en même temps, souvent, il a du terrain en pente. Ils ont eu beaucoup de problèmes d'érosion. Il y a 30 ans, toutes les vignes étaient désherbées à fond. Et quand il pleuvait, la terre, elle partait. Or, quand vous avez certains vignobles qui valent 200 000 ou 300 000 euros à l'hectare, donc là, le capital, finalement, on va en prendre soin de façon durable. Et en même temps, les viticulteurs, ils savaient que pour arriver à quelque chose de différent et de pointu, en fait, il fallait travailler sur le sol. Donc tout est dans le sol et après dans la cave, bien sûr, quoi. Et à partir du moment où il y en a quelques-uns qui se sont mis, en fait, c'était un peu les plus connus. Hein. Kreidenweiss fait partie des précurseurs. Lui, il a dû se reconvertir dans les années 89 déjà. 88, 89, de mémoire comme ça. Il s'est fait certifier en 92 seulement, je crois. Moi, j'ai fait la première visite chez lui à l'époque, là. Et donc, c'était un peu des précurseurs quand même. Et après, c'est allé très vite. Et maintenant, il y a un vrai mouvement de fond dans le vignoble où il y a 20, 30 viticulteurs qui arrivent chaque année, quoi. Et eux, c'est pas pour des objectifs commerciaux directs. Eux ne changent pas de filière parce qu'ils font du bio. Il faut un vin plus affirmé, plus différent, plus typique. Et souvent, le bio, c'est pas le premier argument. C'est le deuxième ou le troisième et c'est le plus, quoi. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est des gens qui exportent beaucoup. Donc, à l'époque, les Américains ont toujours fait du protectionnisme par rapport aux pesticides et aux réglementations. À partir du moment où je fais du bio, j'utilise plus les pesticides de synthèse, je passe plus facilement dans le marché japonais et dans le marché américain. Et donc, il y a des gens qui ont fait de l'opportunisme un peu. Mais comme c'est tellement difficile à faire quand même, c'est une vraie remise en cause. En fait, des opportunistes purs, ils ne restent pas longtemps. Donc, il y a quand même une sélection naturelle, là, qui se fait et qui est très dur, quoi. Donc quand il faut faire tout ça, quand il faut se remettre à mettre des engrais verts, à travailler, machin, à récolter à la main et tout ça, donc les gens ils sont vraiment engagés, quoi. Il y a des gens comme Kreinweiss, donc c'est la deuxième génération déjà. La viticulture est un monde différent de l'agriculture, plus de moyens, plus de formation, des gens qui font leur propre transformation, leur propre commercialisation, ils soignent les clients, ils vont les voir, ils vont à l'étranger, ils vont visiter les autres vignobles pour comprendre ce qui se passe. Donc ça n'a rien à voir avec le producteur qui a des vaches et qui sort finalement jamais de chez lui. Donc c'est vraiment deux mondes différents, quoi. Et donc la viticulture a vraiment amené des lettres de noblesse à l'agriculture biologique quelque part en disant c'est vraiment des produits de qualité. 250 viticulteurs à ce jour. Hein. 250. Non, c'est vrai là, putain. Ça va ? Ils ont fait les tartes flambées là, donc 55 tartes flambées en une heure. Hein. Ouais, ça suffit. Ils avaient tous peur qu'on n'ait pas assez. Je pense qu'on aurait pu nourrir encore 50 personnes de plus, quoi. Ouais, la Deuxième Guerre mondiale est passée par là, donc il y a toujours un souci de ne pas avoir assez, quoi. Puis l'idée aussi, même parmi les bénévoles, beaucoup de bénévoles ne sont pas spécialement branchés bio. Ils sont contents, il y a une ambiance. C'est quelque chose qui va dans le bon sens, c'est quelque chose d'éthique, c'est quelque chose de philosophie quelque part. Et donc ils sont là pour aider, quoi. Tout simplement, hein. Plus ou moins, ils s'y mettent. Mon père, il a 76 ans. Maintenant, quand il fait ses courses, un tiers de son panier, c'est du bio. Alors qu'à 20 ans, c'était le premier détracteur de l'agriculture biologique. Et par contre, il regarde énormément la télévision allemande. Parce que l'allemand est plus facile. La télévision allemande, c'est, je sais pas, c'est 5 reportages sur l'agriculture biologique par semaine. Depuis 15 ans. Ça n'a rien à voir, quoi.
Les agriculteurs, ils vont quand même... que les pesticides s'annuaient leur santé. Je pense qu'ils sont très sensibles à cette thématique-là.
Donc, jusqu'en 2011, la MSA n'a jamais déclaré comme maladie professionnelle des gens qui mouraient, etc. Et là, ça y est, les premiers sont arrivés, quoi. Donc c'est quand même... l'agriculture a essayé d'étouffer ça pendant 30 ans. Hein. Et parmi les premiers agriculteurs bio alsaciens, il y en a 2-3 comme ça qui se sont reconvertis suite à des intoxications aux pesticides. En disant, non, je ne veux pas... Je ne veux pas faire ça, quoi. Donc effectivement, ces pionniers, il y avait tout le monde contre eux, quelque part, quoi. Et même moi, quand j'ai démarré en 96, les voisins venaient en disant, tu vas voir, pendant 2 ans, ça va aller, parce qu'il reste des pesticides, des engrais dans le sol, mais après, t'es foutu, quoi. Et maintenant, on ne les voit plus, on ne les entend plus. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça n'a pas fait des mules non plus. Parce que c'est trop difficile, il faut tout changer, il faut changer l'approche, il faut changer l'état d'esprit, il faut s'occuper de sa propre commercialisation... Il faut s'occuper de sa publicité et tout ça. Donc, ça sort du cadre tout simple comme ça. Donc, effectivement, quand on a travaillé dans des sociétés de services, quand on a fait des études supérieures et tout ça, c'est quand même un peu plus facile que quand on n'est pas trop sorti de chez soi. Donc, ça, c'est clair. Donc, il y a une vraie révolution quand même qu'il y a encore à faire, hein, quelque part.
Le maraîchage, c'est plus difficile.
Ce qu'il y a dans le maraîchage, c'est qu'il y a énormément de travail supplémentaire. Donc, on estime que c'est 40 ou 50% de travail en plus. Et donc, c'est du travail, des fois, qui peut être jugé ingrat. C'est-à-dire, les carottes, quand elles sont petites comme ça, on passe à la main pour les désherber. Donc, on sépare ce qui est carotte et ce qui est mauvaise herbe. Donc, c'est à genoux dans les champs. Des fois, il fait 35 degrés à l'ombre et il n'y a pas d'ombre dans les champs. Les champs, ils font 400 mètres de long, quand même. Et on passe 3 semaines à désherber un champ. Genre 600, 700 heures de travail manuel. Et là c'est hard. Bonsoir. Là, c'est vraiment difficile, quoi. Et donc, à une époque, on avait vraiment du mal à trouver des gens pour nous aider dans les champs. Maintenant, ça a changé. Grâce à l'arrivée d'Internet et du téléphone portable, tous les jeunes ont besoin d'argent. Et là où personne ne voulait travailler dans les champs il y a 10 ans, j'ai à peu près 50 demandes chaque année pour 10 offres. Bon, maintenant, on a déjà les enfants de nos consommateurs qui viennent travailler à la ferme. On a beaucoup de stagiaires, on a eu des gens du Brésil, des gens de Madagascar. Donc, il y a énormément de brassage, en fait. Et on a, chaque année, on a 2-3 personnes qui se forment tout en travaillant à la ferme et qui s'installent comme agriculteurs après, quoi. Donc un certain nombre d'agriculteurs alsaciens sont passés chez moi en formation avant de s'installer eux-mêmes. Donc ça c'est intéressant quelque part. C'est un genre de parrainage, mais en même temps qui est très concret. Ils travaillent et ils s'installent après, quoi. Ce qui fait quand même des liens assez proches entre les collègues.
Vive la carotte bio! Elle a supplanté la morale de la carotte et du bâton au profit de la carotte et de la récompense, même s'il s'agit d'un téléphone portable. Il s'agissait surtout de Maurice Meyer, le président de Bio Aubernais, le salon de l'agriculture bio en Alsace. Il se tient chaque année dans la très jolie ville d'Aubernais, au sud de Strasbourg.